RLFC. Vous écoutez la radio du lycée français du Caire.
Bonjour Hachem.
Bonjour Agit.
Et bonjour à tous dans le début de la nouvelle saison de l'AP Radio 2020-2021. Hachem, de qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui?
Aujourd'hui, on va vous parler des émissions que vont présenter nos camarades.
Et quelles sont ces émissions?
Bon, on a l'émission des nouvelles tendances d'achat de voitures présentées par Mohamed Charabas. On a aussi les prisons en Suède présentées par moi et Rachid.
Et là aussi, on a les émissions de Pablo Escobar présentées par Selim et Selim. C'est le roi de cocaïne en Colombie et aux États-Unis et le criminel le plus riche de l'histoire. Il y a aussi la vie pendant et après le confinement, qui est une expérience personnelle présentée par Mahmoud et Ramzi. Et Hachem, d'où est-ce qu'on pourra écouter ces émissions?
Vous pourrez écouter ces émissions sur www.radioalfc.net et sur Skolingo.
Bonjour, je m'appelle Ramzi Kassabgi et voici mon collègue Mahmoud Nour. Nous sommes des élèves de la classe de seconde 2. Et nous allons vous présenter la vie en général pendant et après le confinement. Début mars, le Premier ministre de l'Égypte a annoncé la fermeture du lycée après le déluge qui a détruit les rues égyptiennes. Cela était la semaine du brevet blanc. Début avril, le lycée va appliquer la meilleure façon d'utiliser par tout le monde les séances Zoom. On a utilisé cette méthode jusqu'à la fin de l'année. Fin juin, les conseils de classe ont aussi été faits par une séance Zoom.
Le 3 septembre, nous sommes retournés au lycée, mais toujours en faisant des séances Zoom. Après les 2 semaines de séances Zoom, nous avons appris que nous allons retourner en mode hybride. C'est-à-dire qu'on irait un jour sur 2. 2 semaines après le mode hybride, nous sommes retournés au lycée, mais pas en demi-groupe.
Alors, nous sommes restés en confinement 7 mois. Comment tu as passé ton temps?
J'ai passé mon temps à travailler pour améliorer mon travail et améliorer mes notes. J'ai aussi passé mon temps à jouer à la PS4.
Comment tu t'es adapté au mode Zoom?
Je me suis adapté au mode Zoom en me réveillant chaque jour 30 minutes avant les réunions. Pour être prêt à travailler et prêt à me concentrer. Mais c'était pas très facile à me concentrer. C'était toujours virtuel et c'était très difficile.
Non, c'était pas comme dans la vraie vie, le prof devant toi pour expliquer. Si tu avais des questions, tu devais rester quelques minutes pour que le prof t'interroge. C'était un peu difficile, n'est-ce pas?
Oui.
D'accord. Je sais que tu es un joueur de foot, alors comment ça s'est passé ça, les entraînements
et... Les entraînements, c'était toujours aussi virtuel. Notre capitaine ou entraîneur nous a recommandé à faire des exercices de musculation. C'était toujours difficile pour savoir l'exercice qu'on devait faire et tout ça. J'ai fait de la musculation chez moi avec les appareils que j'ai achetés au début du confinement. Et comment tu t'es adapté au mode hybride?
Le mode hybride était une façon de travailler nouvelle pour nous tous parce qu'on allait à l'école un jour sur deux. Mais je trouve que c'était plus facile pour les élèves pour rattraper leur travail. C'était plus facile pour réviser les contrôles et rattraper le travail.
S'il y avait quelque chose que le lycée pouvait améliorer pendant le confinement?
Je trouve que pendant le confinement, ça s'est bien passé, mais si on bouscule encore dans le mode hybride, dans les séances Zoom, je trouve que l'école doit garder notre emploi du temps, suivre notre jour normal, mais en séance Zoom.
Est-ce que tu vois que les élèves ont bien consacré leur temps pendant les séances Zoom et pendant leurs heures de travail?
Je trouve que les élèves de ma classe, honnêtement, pouvaient mieux faire. Je trouve qu'il y a des élèves qui pouvaient faire plus d'efforts et améliorer leur travail. Mais c'était nouveau pour nous tous. Alors, Je trouve que c'est normal qu'il y a des élèves qui ont pris du temps pour adapter aux séances Zoom. Et c'est tout.
Aujourd'hui, est-ce que tu utilises toujours les réunions Zoom pour parler avec tes amis ou tu n'utilises plus?
Zoom, c'était juste pour travailler, pour les cours et pour la classe en général. Je trouve qu'il y a des logiciels plus faciles pour parler avec les amis que Zoom. On vous souhaite une bonne année.
Bonjour, je m'appelle Hachem.
Et moi, je m'appelle Rachid.
Et aujourd'hui, on est le lundi 23 novembre et on va vous présenter notre émission sur les prisons en Suède. On va commencer par faire la comparaison entre les prisons en Suède et les prisons en France.
Et moi, après, je vais vous décrire les conditions de vie des prisonniers, notamment dans les prisons en Suède.
Tout d'abord, en France, l'occupation dans les prisons est de 120%, ce qui montre qu'il y a une surpopulation dans le système carcéral français, tandis qu'en Suède, les prisons commencent à fermer. En France, 3 à 4 personnes occupent une cellule de 9 mètres carrés, et en Suède, une personne occupe la cellule qui ressemble à une chambre d'hôtel. Il y a 98 prisonniers pour 100 000 habitants, en France, et 58 prisonniers pour 100 000 habitants en Suède. Dans les prisons de Suède, on a aussi une libération aux 2/3 de la peine et le taux de récidive est de 2 fois moins qu'en France.
En Suède, ils visent la réhabilitation plutôt que la punition. C'est pour ça qu'ils réservent 6 heures par jour pour des activités, par exemple le travail, formation, programme spécialisé. Cela est un droit, mais c'est aussi un devoir. Car des fois, les prisonniers sont déshumanisés, alors ces activités leur donnent un sens d'utilité. Et aussi, ça les aide à la réintégration dans la société et à la vie de travail. Les prisons suédoises valorisent le confort et l'état d'esprit du prisonnier. En revanche, les prisonniers sont exposés à des conditions de vie inhumaines, dont 37 des 187 prisons en France. En Suède, il y a uniquement un prisonnier par cellule, qui contient une salle de bain privée, une télévision, une fenêtre sans barreaux, un petit réfrigérateur et un bureau. Ils essayent aussi d'éviter l'enfermement en utilisant des bracelets électroniques équipés avec des GPS, ce qui permet à certains prisonniers de se réintégrer dans la société et à la vie de travail. En 2018, il y avait environ 14 000 condamnés en Suède, placés sous le régime du bracelet électronique. Tous les condamnés sont suivis par un agent de probation qui leur donne leur soutien nécessaire pour faciliter leur réinsertion.
En conclusion, si tu comptes commettre un crime, on vous conseille d'aller en Suède.
Bien sûr, c'est une plaisanterie.
En prenant compte du taux de récidive en Suède, peut-être que les autres pays peuvent prendre comme exemple ce système carcéral. Merci de nous avoir écoutés. On espère que ça vous a plu.
Merci.
Bonjour, je m'appelle Selim.
Et je m'appelle Selim.
Et nous allons vous parler du roi de la cocaïne, Pablo Escobar.
Pablo Emilio Escobar Gaviria. Pablo, né le 1er décembre 1949 dans une famille pauvre en Colombie, à Medellín, il a 6 frères et un esprit criminel de son enfance. Il a commencé par voler des pierres tombales et des voitures avec son frère dès la jeunesse. Et puis il a commencé à fabriquer des diplômes falsifiés avec son père. Et finalement, vers 20 ans, il débute le commerce dans les drogues et les cigarettes. Comment devient-il le roi des drogues? J'étais jeune, j'avais envie de vivre et j'avais de l'ambition. Ceci sont les mots du jeune Pablo Escobar lors d'un article de journal anonyme publié en 1989. Il a commencé le trafic de drogue envers les années 70 après la rencontre d'un John Gringo qui lui avait demandé s'il pouvait lui racheter de la drogue. Pablo prit son temps pour réfléchir et il accepta et puis il commença un trafic de drogue entre les États-Unis et la Colombie.
Pablo commence à investir dans le cocaïne en 1975. Dans son premier voyage, il l'a transporté 15 kg de cocaïne qui coûtait 500 000 $ dans les pneus d'un avion. À son apogée, Pablo transportait 15 tonnes de cocaïne par jour en direction du continent américain en utilisant 15 avions et 6 hélicoptères qui débarquait et atterrissait dans son domaine, la hacienda. Pour montrer sa grande autorité, il commence à assassiner toute personne qui menaçait son empire.
Le parrain et son empire tombent le 2 décembre 1993. C'est Hugo Martinez, un commandant de l'armée, qui a réussi à tuer Pablo un jour après son anniversaire, à l'aide d'un outil d'espionnage. Pablo meurt à 44 ans et son corps fut pris par 15 commandants.
Et malgré sa violence et le danger mortel de la drogue, Pablo reste une icône dans le monde de la drogue. Il restera dans le cœur du peuple colombien grâce à sa générosité envers les moins fortunés.
Merci de nous avoir écoutés. On espère que vous avez aimé cette rubrique. On va vous laisser avec un proverbe à méditer de Pablo Escobar. Selon Pablo Escobar, le but de la guerre, c'est la paix.
Le loup et la cigogne de Jean de La Fontaine. Les loups mangent gloutonnement. Un loup d'enquêtant de frérie se pressa, dis donc, tellement qu'il en pensa perdre la vie. Un os lui demeura bien avant au gosier. De bonheur pour ce loup qui ne pouvait crier. Près de là passe une cigogne. Il lui fait signe, elle accourt. Voilà l'opératrice, aussitôt en besogne. Elle retira l'os, puis, pour un si bon tour, elle demanda son salaire. « Votre salaire ?» dit le loup. « Vous riez, ma bonne commère. Quoi ? Ce n'est pas encore beaucoup d'avoir de mon gosier retiré votre cou. Allez, vous êtes une ingrate. Ne tombez jamais sous ma patte. »
Le corbeau et le renard, La Fontaine. Maître Corbeau sur un arbre perché tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près son langage. « Eh, bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. » À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. » Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus.
Mignonne, allons voir si la rose, le père de Ronsard. Mignonne, allons voir si la rose, qui ce matin avait déclos sa robe de pourpre au soleil. À point perdu ses esprits, le puits de sa robe pourprée et s'en tint au vôtre pareil. Là, voyez qu'en un peu d'espace, Mignonne, elle a dessus la place. Là, là, ses beautés laissées choir. Oh, vraiment, marâtre nature, puisqu'une telle fleur ne dure que du matin jusqu'au soir. Donc, si vous me croyez, mignonne, tandis que votre âge fleuronne en sa plus verte nouveauté, cueillez, cueillez votre jeunesse, comme à cette fleur la vieillesse fera ternir votre beauté.
RLFC, vous écoutez la radio du lycée français du Caire.